Bonjour et bienvenue dans Europe & Roll sur Fadjet. Vous allez tout savoir de l'actualité des jeunes européens. Cette semaine, Europe & Roll s'est initié dans les coulisses du salon Jeune Création Européenne de Montrouge, aux portes de Paris. Il s'agit de la Biennale Européenne d'Art Contemporain. 85 artistes de 11 pays européens, une exposition itinérante à travers l'Europe, c'est ça le salon Jeune Création Européenne. Mais comme chaque semaine, on commence par un tour d'horizon de l'actualité européenne par Maxime.
Union européenne, une action concertée prochainement au Darfour. Les pays de l'Union européenne doivent décider s'ils enverront de façon concertée des troupes au Darfour. Cette décision doit faire suite au vote le 26 septembre à l'ONU d'une résolution qui autorise l'envoi d'une force armée dans cette zone de l'Afrique. Depuis 2003, on estime que 200 000 personnes au moins sont mortes au Darfour et que 2 millions sont en exil. Si action européenne il y a, celle-ci devrait prendre la forme d'une action concertée. Elle devrait se mettre en place début 2008 avec des soldats notamment français ou polonais. Cette force devrait aussi être couplée à des contingents de l'Union africaine. Il s'agirait là d'une opération décisive pour l'Union européenne en ce qui concerne la mise en place de la politique de défense et de sécurité commune. Traité européen, pas de référendum aux Pays-Bas. Le Premier ministre néerlandais Jan-Peter Balkenende a annoncé qu'il n'y aurait pas de nouveau référendum aux Pays-Bas pour ratifier le traité simplifié en cours de rédaction. En 2005, les Pays-Bas avaient été le seul pays avec la France à rejeter le traité constitutionnel européen. D'après le Premier ministre néerlandais, un nouveau référendum est inutile car le texte ne comporte pas d'enjeux constitutionnels. Celui-ci devrait donc être voté au Parlement comme en France. Traité européen toujours, une controverse concernant le statut de la Banque Centrale Européenne est apparue. En effet, celle-ci apparaît dans le nouveau texte comme une institution de l'Union Européenne, au même titre que la Commission ou le Parlement. Le président de la Banque Centrale, Jean-Claude Trichet, a cependant fait remarquer que celle-ci devait avoir un chapitre à part comme la Cour des comptes, du fait de son indépendance. Mais cet argument a été rejeté par presque tous les juristes des États membres, dont la France. Seule l'Allemagne soutient Jean-Claude Trichet. Italie, toujours moins de fonctionnaires. En Italie, où le poids et le coût de l'État est sans précédent, une vague de réformes prévoit une vaste remise à plat du système. Ainsi, le budget 2008 du gouvernement Prodi ne prévoit le remplacement que de 2 départs à la retraite sur 10 dans la fonction publique. Cette décision s'inscrit dans une logique qui dure depuis plusieurs années et qui veut la simplification et l'amélioration de l'administration. Cette réforme de l'État s'est faite aussi au prix de privatisation et de libéralisation dans divers domaines. Et aujourd'hui, la fonction publique italienne est mieux payée que la française. Peut-être un exemple pour le gouvernement Fillon. Et en bref, le socialiste français Dominique Strauss-Kahn a été désigné vendredi directeur du Fonds monétaire international. Ce poste est en général réservé à un Européen. Le moral des consommateurs allemands est en baisse, malgré les bons résultats du pays. La raison, la crise financière venue des États-Unis, mais aussi la hausse des prix des produits alimentaires.
Baciami, baciami ancora, e concentrati, ti prego.
Notre playlist de cette semaine sera elle aussi consacrée aux pays associés au Salon Jeune Création Européenne. On commence par l'Italie avec In una notte d'estate de Les Vibrazioni.
Sai no perché sei così lontana.
fare?
Europe and Roll, toute l'actualité des jeunes européens sur Fadjet. Et maintenant, pour en savoir plus sur ce fameux salon européen d'art contemporain, écoutez Jean Louméton, maire de la ville de Montrouge.
Déjà, est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs ce que c'est que ce projet de salon jeune création européenne que vous avez initié?
Alors, d'abord, c'est pas un projet, puisque aujourd'hui nous en sommes, voilà, c'est ça, à la 7e édition. Si vous voulez, tout ça est lié à l'histoire de Montrouge, qui depuis 53 ans est un découvreur de jeunes talents à travers le centre de Montrouge. Le centre de Montrouge est très célèbre, c'est un des plus grands salons français d'art contemporain et qui a comme spécialité depuis 1976 d'être découvreur de jeunes talents. En 2000, j'ai souhaité que ce salon prenne une dimension internationale, puisqu'aujourd'hui la France n'est qu'une région d'Europe. Et de ce fait, j'ai essayé de voir comment on pouvait le développer. J'ai eu l'idée d'aller chercher dans le maximum de pays européens des villes qui auraient la même vocation que nous, c'est-à-dire dans leur pays, de découvrir de jeunes talents et de réunir à travers une sélection, en une seule exposition, les découvertes, les grandes tendances du nouvel art contemporain de l'Europe. Et en plus de faire de cette exposition une exposition itinérante, c'est-à-dire qu'elle se déplace d'un pays à l'autre, pour que tous les spectateurs, tous les professionnels, tous les galeristes de l'Europe puissent trouver chez eux, en tout cas dans une ville de leur pays, ce panorama tout à fait exceptionnel.
Oui, cette année, il y a 6 villes partenaires, c'est ça ?
Voilà, alors il y a 6 villes partenaires et il y a 5 villes associées. Les villes associées ayant vocation à terme à devenir des villes partenaires. Alors les villes partenaires et les pays partenaires, bon évidemment on a commencé avec la France, le Portugal et l'Espagne, et puis se sont rajoutés l'Autriche, l'Italie et la Lituanie. En pays associés, nous avons la Lettonie, l'Estonie, la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie.
Alors pourquoi un tel salon d'art contemporain à Montrouge ? Est-ce que c'est une réalité historique du fait de la proximité avec Montparnasse ou une volonté politique aussi, j'imagine ?
Alors c'est les deux, parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Si vous avez un terrain propice et si vous ne labourez pas, vous ne récolterez rien. Il est vrai qu'il y a toujours eu beaucoup d'artistes à Montrouge, mais comme il y en a eu aussi dans d'autres villes périphériques de Paris, c'est vrai que le voisinage de Montparnasse est favorable et donc les artistes, pour trouver de la place, se sont installés à Montrouge en nombre important. Des gens comme Picasso, Braque se sont installés à Montrouge. Et ça a continué tout au long de ces dernières années. Et nous continuons effectivement à développer cela puisque nous avons construit 4 ateliers d'artistes dont 2 ateliers qui servent justement à la résidence itinérante d'artistes européens dans le cadre du salon Jeune Création Européenne. Donc c'est un prolongement géographique, mais derrière il a fallu une volonté politique puisque ce salon, le salon de Montrouge, je dirais le salon d'origine du salon Jeune Création Européenne, a commencé par être un salon de province, on va dire tout à fait classique. Et c'est sous l'impulsion de Nicole Ginoux, la fille de mon prédécesseur en 1976, qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un salon de découvreurs de jeunes talents. Et c'est ce concept que j'ai développé au niveau européen.
Oui, vous le disiez, ce salon, c'est pas uniquement une exposition, c'est aussi un tremplin donc pour de jeunes talents, puisque vous mettez à disposition des lauréats chaque année une résidence atelier, c'est ça ?
Voilà, alors on fait beaucoup de choses. On expose et donc on fait rencontrer ces jeunes artistes inconnus, on leur fait rencontrer un public. Ce public est composé de spectateurs, bien sûr, hein, puisque l'art n'existe que dans le regard des spectateurs et des amateurs, mais aussi des professionnels, puisque c'est important pour eux de leur mettre le pied à l'étrier, des revues spécialisées de tout le monde de l'art pour qu'ils se révèlent. Mais on va plus loin, on leur permet aussi, ce sera la deuxième année cette année, d'avoir une cote, puisque nous ferons une vente aux enchères grâce à Maître Cornette de Saint-Cyr qui va officier dans cette vente au mois d'octobre, puisque un grand nombre d'entre eux n'ont pas vraiment de cote, ils n'ont pas encore vraiment accès au marché. On essaye de faire bouger les artistes européens, de leur permettre d'échanger, de se rencontrer, de trouver des univers différents. C'est les résidences pour jeunes artistes, donc avec des ateliers qui sont conçus pour des artistes, c'est-à-dire avec des grandes hauteurs de plafond, une exposition au nord, etc. C'est aussi des forums comme celui de cet après-midi qui va permettre à des artistes d'échanger, plus un forum sur Internet qui va leur permettre de discuter entre eux des 4 coins d'Europe.
Donc l'entrée du salon est gratuite, alors comment est-ce que vous financez une telle mise en réseau européenne ? Vous avez le support de l'Union européenne ?
Alors nous sommes, nous travaillons avec l'Union européenne. Certaines années nous avons des subventions, d'autres années nous n'en avons pas. C'est pas très grave. On compte. Vous savez, à Montrouge, on n'a jamais compté sur les subventions pour avancer. Hein. Et c'est là que la volonté politique est importante et c'est là que le choix démocratique est aussi. Donc nous finançons cette exposition pratiquement à 100%. On n'a pratiquement pas de subventions, mais c'est pas un souci. Vous savez, il faut pas des moyens énormes pour faire développer ce genre d'initiative. Il faut surtout beaucoup de volonté, d'opinion. Parce que c'est un travail qui est long, mais ça ne demande pas forcément des moyens considérables.
On continue tout de suite notre tour musical de l'Europe avec le groupe hongrois Akos.
Emlékszem még, ugye, a kamasz éveinkre, ahogy együtt volt az a néhány jó barát. De nosztalgikusan óta, mert szétszélett azóta az a szép reményű jó kis társaság. És emlékszel ugye a lányra, aki oly sokáig várta, hogy beleszeressen végre valaki, s hogy a valaki te lettél, arról nem is igen tehettél, de azért nem kellett neked kétszer mondani. Elmentek a régi barátok, és nem jönnek soha vissza. De keresd meg a lányt, tudom, hogy megtalálod. Kicsit haragszik ugyan rád, de azért visszavár. Értsd meg, kérlek, szeret valóban téged, pedig furcsa vagy néha igazán. Színjátékot ne tervezz, nem kell semmilyen jelmez, csak menj már, mert vár rád az a lány. Elmentek a régi barátok, és nem jönnek soha vissza a már. Te keresd meg a lányt, tudom, hogy megtalálod. Kicsit haragszik ugyan rád, de azért
Sveiki.
Bonjour.
Europe and All, toute l'actualité des jeunes européens sur Fadjet. Vous vous demandez peut-être à quel point le salon Jeune Création a une dimension européenne. Explication par Monsieur Jean-Loup Mettan.
Vous avez intégré à ce salon de nombreux pays est-européens comme la Lituanie, l'Estonie, la Pologne, la Hongrie. On sait donc qu'ils sont assez dynamiques économiquement, mais que la culture n'est pas la priorité des gouvernements. Alors est-ce que vous ressentez cela ici aussi ?
Nous, notre initiative, c'est une initiative de ville. Donc moi, je vais rencontrer des maires. Je vais recevoir tout à l'heure le maire de Pécs en Hongrie. Donc on n'attend pas après des gouvernements qui, par définition, et on a l'expérience en France, de toute façon, ont une inertie considérable. S'il fallait tout attendre, en quelque sorte, de l'État-providence, on ferait jamais rien. L'initiative, elle vient de la base et nous tramons ce réseau par des relations directes. Nous avons une personne, Andrea Poncini, qui est spécialisée dans ce travail d'aller démarcher d'autres villes pour leur proposer ce concept et leur dire, voilà, ce concept, il est à la fois intéressant parce qu'il va vous permettre de faire connaître vos jeunes artistes dans toute l'Europe. Deuxièmement, pour votre ville, l'image d'être promoteur de jeunes talents, de jeunes artistes, c'est la modernité, c'est l'innovation, c'est la création, c'est très positif pour votre image. Et nous travaillons aussi avec nos entreprises. Lors du salon de Montrouge, les entreprises qui ont des grands bureaux le long du périphérique mettent des vitrophanies de plusieurs centaines de mètres carrés pour représenter des œuvres qu'elles ont choisies dans notre sélection d'art contemporain.
Alors, est-ce que vous pensez que, grâce à des initiatives comme la vôtre, on puisse développer une Europe culturelle qui n'existe pas vraiment encore ?
Alors, vous savez, on a exactement la même démarche qu'avaient les pères de l'Europe. Ils ont commencé par des projets très concrets, comme la communauté du charbon et de l'acier, et puis, progressivement, tout ça s'est institutionnalisé. Nous, on fait notre réseau des villes européennes d'art contemporain avec cette spécificité qui n'est pas de... Vous savez, toutes les grandes capitales, elles vont vous faire des expositions avec des artistes reconnus, ça va coûter très cher, etc. Et nous, on a choisi un créneau qui est complètement différent parce qu'on mise sur l'avenir. Et donc, on n'a pas besoin de support, on le fait par nous-mêmes. Mais si ces initiatives comme celle de Montrouge se démultiplient, et elles se démultiplient parce que les entreprises, bien sûr, maintenant ont des tailles critiques qui sont au minimum européennes, donc tout ça, ça fait l'Europe. Ça fait l'Europe sans forcément avoir besoin d'un label d'État.
Merci beaucoup.
Un autre pays associé au salon, la Pologne. Écoutons tout de suite Agnieszka Józdawna, Tutaj Niemieszka.
Jeszcze młody, ona była młoda, zakochani przy świetle księżyca nocami. Chodzili długimi leśnymi ścieżkami, tak mijały tygodnie, lecz rozstanie nadszedł czas. Zawsze mówił jedno zdanie, moje śliczne ty kochanie, ostatniego dnia. Tych pamiętnych wakacji kochali się namiętnie w męskiej ubikacji. Przysięgli przed Bogiem miłość wzajemną, że za rok się spotkają i na zawsze przed sobą już będą. Często z i pisał do niej listy miłosne, w samotności przeżył jesień, zimę, wiosnę. Nie wytrzymał do wakacji, postanowił ją odwiedzić, bo nie dostał już dawno od niej żadnej odpowiedzi. Gdy przyjechał do jej domu po dość długiej podróży, cieszył się, że ją zobaczy, w końcu tyle dla niej znaczył. Lecz gdy ona go ujrzała, szybko się schowała, drzwi mu matka otworzyła, no i tak mu powiedziała: Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka.
De nos pérégrinations au sein du Salon Jeune Création Européenne, nous avons demandé aux différents commissaires de décrire pour vous quelques œuvres qu'ils avaient choisi d'exposer.
Est-ce que vous pourriez nous présenter les œuvres de l'exposition française ?
Alors oui, bien sûr. Alors le type d'œuvres qui sont présentées sont issues du Salon de Montrouge, un salon qui est un vieux salon qui a 53 ans, qui est sur candidature spontanée de jeunes artistes souvent sortis des Beaux-Arts. On a toutes les influences de la formation, bien entendu, des Beaux-Arts, qui est quand même essentiellement pictural en France. Il y a un artiste qui s'appelle Édouard Aubert qui travaille sur la prostitution obligatoire qui s'est produite dispute entre les pays de l'Est et Berlin à l'occasion du championnat du monde ou l'Europe de football. Donc il a fait tout un travail assez important sur cette prostitution. Il y a un artiste qui s'appelle Rock'n'Roll Suicide qui est complètement iconoclaste. Il détruit les images des hommes publics, que ce soit bien entendu en l'occurrence ici Jean-Paul II, Bush, Poutine, enfin bon. Un discours assez simple mais efficace, puis qui reprend un peu tous les standards de ce que l'on démolit dans notre société. Et puis il y en a un autre qui s'appelle Nicolas Moreau, qui travaille sur les jeux de télévision. Alors il avait fait le tableau qui est présenté ici, c'est pas les jeux de télévision, ce sont les Game Boys. Il avait fait des choses sur les Star Academy, sur tout ça, d'une manière très caricaturale. Et en dernier lieu, j'ai aussi pris une jeune femme qui travaille avec l'écriture sur tous les poncifs de la société, qui aujourd'hui nous apprennent exactement comment il faut faire, y compris se brosser les dents, comment on se réveille le matin, quel pied on met par terre, etc., etc. Et qui a fait un travail qui est très intéressant, qui est ce travail avec les petits livrets. Que faire le soir, le matin, le midi, pour vivre aujourd'hui?
Je vous présente le Pinocchio de Doris Schmidt-Lechner. En rentrant dans la pièce, on ne voit que le bout du nez qui dépasse du mur. Quand on découvre le Pinocchio, la première réaction, c'est normalement de le trouver surprenant, innocent, un peu comme un enfant. Mais au second degré, il représente quand même cette faiblesse humaine, quel mensonge et aussi sa force. Voilà un artiste qui fait beaucoup d'installations. Il intervient dans l'espace et confronte l'intérieur et l'extérieur d'un espace. Il les aménage afin de créer des espaces protégés. C'est une autre artiste, Miria Condado. Elle aussi travaille sur l'espace. Elle croise souvent des éléments ruraux et urbains. Par exemple, dans un décor rural, elle va implanter un objet clairement urbain. Voilà une peintre, cette fois, Amelia Alexandre. Elle croise des formes organiques et anthropomorphes afin de trouver de nouvelles formes et donc une nouvelle liberté de l'imaginaire grâce à ces nouvelles formes. Le prochain, c'est José Batista March. Il utilise la peinture comme moyen de produire des situations invraisemblables, insolites.
Comme on est à la radio, on va décrire l'œuvre à nos auditeurs. On a devant nous l'œuvre primée en 2006. Comment la décririez-vous?
Ce sont deux rouleaux de lavomatique montés de façon verticale et parallèle. L'idée est de les faire tourner et de passer entre les deux comme par un portail. On fait bien sûr allusion à la purification intérieure, mais on peut aussi penser que pour une fois, c'est les pinceaux qui forment et qui sont l'œuvre et qui ne sont plus seulement des outils. Du coup, ça.
Est-ce qu'il existe des salles et un public pour ce genre d'œuvre?
Il faut aussi éduquer son public. Hein. Il faut éduquer un public qui n'existe pas encore. C'est aussi bon signe en même temps parce qu'on pourrait se dire qu'on est peut-être en avance sur son époque.
On continue avec le chanteur portugais Rui Veloso, Porto Covo.
Olhando o mundo azul à minha frente, ouvindo o roxinol na redondeza, no calmo improviso do poente, embaixo fogos trêmulos nas tendas, ao largo as águas brilham como prata. Vai contando velhas lendas de portos e baías de pirata. Desceu sobre esta paz e reina sobre todo este luzeiro.
Europe'n'Roll, toute l'actualité des jeunes européens sur Fadjet. Dans les couloirs du salon, l'équipe d'Europe'n'Roll a ensuite croisé Philippe Régnier, rédacteur en chef du Journal des Arts. Écoutez ce qu'il pense des créneaux de l'art contemporain au micro de Ole.
Est-ce que vous pourriez exposer à nos auditeurs les grands thèmes, les lignes de force de la table ronde ?
En fait, la table ronde s'intitule « Entre institutions et marché, quel avenir pour la jeune création européenne ?» et elle est destinée à montrer aux jeunes artistes et notamment aux étudiants comment construire leur carrière, commencer à exposer aussi bien dans des institutions publiques que dans des galeries commerciales.
Justement, quels sont les moyens aujourd'hui pour un jeune artiste de se faire connaître ?
Alors il y a vraiment énormément de moyens aujourd'hui. Nous sommes dans une société de communication et donc qui dit communication dit large public et dit beaucoup de supports et de moyens différents. Le premier moyen c'est Internet aujourd'hui qui permet à chaque artiste de créer son propre site web. Ensuite il y a effectivement les réseaux classiques passés par des professionnels, que ce soit des galeristes ou des commissaires d'exposition ou des directeurs de musées.
Il y avait une question que je trouvais très intéressante, c'était le lieu de résidence est-il un critère de réussite.
Le lieu de résidence est extrêmement important parce qu'il permet de mettre en relation l'artiste, son travail et les interlocuteurs, que ce soit les interlocuteurs publics, donc les commissaires d'exposition, les gens qui pensent et qui réfléchissent sur l'art, mais aussi les gens qui diffusent l'œuvre, qui la vendent et qui aussi l'achètent, donc les collectionneurs. Il est évident que si on habite dans une ville où on y a une proximité avec l'ensemble de ces réseaux et de ces personnes, il est beaucoup plus facile d'exposer, d'être diffusé et puis ensuite de développer sa carrière.
Comment se compose aujourd'hui le public pour l'art contemporain qu'on ne dit pas toujours facile d'accès ?
Alors le public s'est énormément élargi depuis quelques années, on pourrait dire depuis 10 ans, avec la multiplication premièrement des biennales. Donc aujourd'hui nous voyons ici par exemple à Montrouge, cette biennale qui est déjà ancienne mais qui est un élément important. Mais ensuite d'autres biennales qui existent partout dans les pays en Europe mais aussi en Asie, aux États-Unis. Et un nouveau public aussi qui est le public des acheteurs, des collectionneurs. C'est vrai que pendant longtemps, on a estimé qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui s'intéressaient réellement et qui s'engageaient à créer des collections. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On voit avec le succès de toutes les foires commerciales qui se développent de plus en plus.
Vous avez parlé d'Internet. Qui dit Internet dit aussi gratuité. Est-ce que la gratuité, c'est aujourd'hui un danger ou est-ce que ça peut être un moyen pour les artistes, pour les galeristes, sachant aussi qu'apparemment au ministère de la Culture, on pense à expérimenter la gratuité pour certains musées ou certains jours.
Il faut différencier plusieurs choses parce que là, on parle effectivement surtout des jeunes artistes. Souvent, les lieux d'exposition des jeunes artistes, que ce soit les centres d'art ou les FRAC en France, sont des lieux gratuits, donc qui permettent à ces artistes d'avoir un public le plus large possible. Ensuite, quand on parle effectivement de la gratuité des musées, c'est autre chose. C'est d'une part la gratuité des collections permanentes et non pas simplement des expositions. C'est vraiment un autre débat. En ce qui concerne Internet, je crois que effectivement, c'est toute la force de ce médium, c'est de permettre à un grand nombre de personnes d'avoir accès de façon assez simple, depuis chez soi, au travail des artistes.
Donc pour vous, ce serait plutôt une opportunité qu'un danger.
C'est sûr.
La Lituanie faisait également partie des pays invités. On écoute donc tout de suite le groupe Bix avec Pressure.
le commissaire français du salon, Alain Lamenière, nous expliquer en quoi consiste le travail de tous ces commissaires des quatre coins de l'Europe.
Vous êtes le commissaire de l'exposition ?
Je suis le commissaire de la partie française de l'exposition, parce que chaque pays est représenté par un commissaire. Mais bon, là, je suis un petit peu plus coordinateur dans la mesure où c'est à Montrouge, et que je suis le commissaire de Montrouge.
Les commissaires, après, ils votent pour le lauréat ?
Alors, les commissaires ont voté ce matin, c'est-à-dire ils se réunissent, ils visitent le salon, ils choisissent après, ils délibèrent pour établir un prix qui sera le grand prix du jury et qui, à ce moment-là, bénéficie, non pas d'avantages particulièrement importants, mais ils ont des possibilités d'avoir un atelier en résidence à Montrouge pour faire leur travail, ou pour les Français en général, c'est pour pouvoir avoir plus d'espace, parce que les espaces sont quand même petits à Paris. Pour les étrangers, c'est le moyen de venir prendre des contacts. Et puis, ils ont en l'occurrence un prix qui est offert par un sponsor qui s'appelle Besner, je crois, qui est un prix en matériel de travail qui est de 1000 euros.
C'est pas trop compliqué de travailler comme ça entre différents pays européens ? Vous travaillez en anglais ?
Alors, c'est très compliqué parce qu'on travaille en anglais avec chacun un peu nos difficultés à parler des langues qu'on n'a pas tellement l'habitude de parler, surtout pour nous, français. Mais c'est beaucoup plus facile, on le voit pour les Hongrois ou les Lituaniens.
Oui, c'est vrai que les Français ne sont pas très bons en langue.
Voilà, non. Et puis eux, ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas parler dans leur langue.
Est-ce que vous pourriez nous présenter les œuvres de l'exposition française ?
Alors oui, bien sûr. J'ai choisi 5 peintres, mais dans ces 5 peintres, j'en ai choisi 3 qui avaient un discours sur l'actualité ou bien un discours revendicatif et sociétal, parce que ça donne un petit peu d'air dans le rôle des artistes.
Donc vous pensez que c'est le rôle de l'artiste de critiquer la société ?
Oui, pour les jeunes artistes, on peut pas se contenter qu'ils fassent de l'esthétique, vous comprenez, parce que l'esthétique, on en trouve beaucoup. Alors critiquer la société, c'est peut-être un peu fort, ou tout au moins y porter un regard, voilà, un regard sur la société et un regard de la société de leur âge avec leur âge.
Comme dans tout salon, ce sont des jeunes artistes, toujours des jeunes talents, pas très connus.
Alors, un jeune artiste, ça va loin. On est jeune quand dans le milieu artistique, je suis à 40 ans. Mais en l'occurrence, on s'est donné comme base 30 ans.
Quel public existe pour l'art contemporain auquel on prête quand même une accessibilité pas très facile ?
Mais écoutez, l'avantage des salons comme ceux que l'on fait à Montrouge, c'est qu'ils sont gratuits. On a un public excessivement divers. Ça va aussi bien du garçon qui fume des pétards sur la place et puis qui vient voir qu'est-ce qui se passe ici, à des mémés. Elles vont au centre d'action sociale et puis elles disent « tiens, je vais aller voir ce qu'il y a ». La gratuité fait qu'on a un public assez important. Au salon de Montrouge, le dernier, nous avons eu 13 000 visiteurs. Les choses se savent, ces salons ont une réputation, donc il y a des artistes qui viennent, il y a des collectionneurs, des acheteurs d'art.
Vous travaillez avec plusieurs partenaires européens. C'est une occasion pour peut-être répondre à la question. Est-ce que vous pensez qu'on assiste ou qu'on assistera à l'émergence d'un art européen ou d'une culture européenne? Ou est-ce que c'est une qualification valable pour l'art?
Alors pour la culture, oui, il y a une culture européenne, c'est suffisamment battue pour donner les racines chrétiennes de l'Europe. Hein, donc ça a quand même pas mal marqué tous les pays européens d'une manière homogène. L'art, je trouve, si vous voulez, qu'il y a beaucoup d'artistes, on ne sait pas s'ils sont français ou si ou ça. Alors on a encore quelques différences, quelques revendications que nous avions il y a bien longtemps, qui apparaissent avec les pays de l'Est qui ont été libérés récemment, mais qui sont quand même dans une dynamique excessivement importante, comme la Lituanie, l'Estonie, qui sont des pays qui vont à une vitesse terrible dans le libéralisme pour rattraper un petit peu tous les pays européens. Donc il y a quelques pensées qui sont un peu dépassées pour nous, qui existent, mais ça va aller très très vite sur une uniformité. Mais bon, il y a une culture, hein, on ne fait pas la même architecture à Berlin qu'à Paris, ni qu'à Madrid, donc il y a toujours des petits traits qui soulignent un pays ou un autre.
On continue notre programmation musicale dans l'Est de l'Europe avec le groupe estonien Hidden Well et sa chanson Korumpeta Kuka. We'll be right back. tous ces artistes de toute l'Europe nous ont amenés à nous poser une question fondamentale. Existe-t-il une identité culturelle européenne? Voyons ce qu'en pensent les différents intervenants, que ce soit les commissaires français, portugais, autrichiens, les étudiantes en école d'art ou le maire de Montrouge. Est-ce que vous pensez qu'il existe un art européen et une culture européenne à travers de telles initiatives?
Quand je parcours les œuvres ici exposées, sans lire les explications, je ne vois guère si un artiste vient d'Espagne, d'Autriche ou d'Italie. Là, il n'y a plus de différence. Mais sur une échelle plus large, entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique, elle persiste.
Vous travaillez avec plusieurs partenaires européens. Est-ce que vous pensez qu'on assiste ou qu'on assistera à l'émergence ou d'une culture européenne?
Alors, pour la culture, oui, il y a une culture européenne, sans suffisamment battue pour donner les racines chrétiennes de l'Europe, hein, donc ça a quand même pas mal marqué tous les pays européens d'une manière homogène. L'art, je trouve, si vous voulez, qu'il y a beaucoup d'artistes, on sait pas s'ils sont français, ou si ou ça. Alors, on a encore quelques différences, quelques revendications que nous avions il y a bien longtemps, qui apparaissent avec les pays de l'Est qui ont été libérés récemment, mais qui sont quand même dans une dynamique excessivement importante, comme la Lituanie, l'Estonie, qui sont des pays qui vont à une vitesse terrible pour dans le libéralisme, pour rattraper un petit peu tous les pays européens. Mais bon, il y a une culture, hein, c'est pas la même architecture à Berlin qu'à Paris, ni qu'à Madrid.
Pensez-vous qu'il y a un danger d'uniformisation?
C'est vrai que les artistes ici sont tous européens, mais ils viennent de pays très différents, avec des cultures très différentes. Bien sûr qu'il peut y avoir des œuvres semblables dans le style ou concernant le sujet, mais je pense que les différences ne disparaîtront pas.
Est-ce que vous pensez que se développe un espace culturel, artistique européen?
Bien sûr. Aujourd'hui, on voit bien que l'Europe a un rôle majeur à jouer sur la scène mondiale. C'est vrai qu'on a d'un côté les États-Unis, de l'autre côté l'Inde et l'Asie qui se développent de plus en plus. Il faut renforcer absolument toutes les structures européennes et aider au maximum les jeunes artistes européens à se faire connaître.
Une chose qu'on a déjà vue en fait, il faut savoir que c'est des jeunes artistes qui sortent d'école, donc c'est un art très académique, mais de par l'unité européenne en fait, on peut peut-être se dire qu'ils ont un enseignement semblable en fait, à travers tous les pays de l'Europe.
Plus de différence entre les pays, comme on pouvait le voir il y a 5 ans ou quelques années, les pays de l'Est étaient disons un peu plus en retrait au niveau de l'art contemporain, alors que maintenant on constate bien quand même il y a une uniformisation au niveau international.
Est-ce que vous pensez qu'on assiste à l'émergence d'un art européen ou d'une culture européenne?
À mon avis, je crois qu'on voit quand même l'origine des artistes, au moins après coup. Il y a certainement un art typiquement allemand, par exemple, plutôt objectif et conceptuel, qu'on ne trouvera pas tellement en Italie.
Vous croyez en la jeune génération pour forger cette Europe de demain avec une identité culturelle européenne?
Alors c'est la question, c'est ce qui est toujours l'interrogation. À chaque fois qu'on découvre le salon, chaque année, on se dit, est-ce qu'il y a effectivement une identité, et ça veut dire des traits communs importants entre ces jeunes artistes venus des quatre coins de l'Europe, ou est-ce qu'au contraire, il y a des spécificités? Alors on s'aperçoit qu'il y a les deux. Il y a des traits communs, parce que finalement, on vit pratiquement pareil. Hein. On voit les mêmes films, les médias font énormément pour unifier, on va pas dire uniformiser, hein, mais unifier notre fond de culture. Par contre, il y a des inspirations très très différentes. Alors c'est le grand débat, et l'année dernière déjà au niveau de notre forum, on se posait la question, mais on n'a pas la réponse. Et tant mieux tant qu'on n'aura pas la réponse. C'est mieux comme ça.
Côté musique, on part cette fois-ci en direction du sud avec le groupe espagnol Banda Sonora.
La journée d'inauguration du salon s'est terminée par une soirée privée au théâtre de Montrouge où se tient l'exposition. Et ce, bien sûr, en compagnie des artistes. Europe & Roll en a profité pour interviewer l'un d'eux, Axel Sanson.
Vous exposez au salon Jeune Création Européenne ?
Oui, absolument. Ouais, j'ai une toile qui va voyager après dans tous les pays d'Europe.
Et qu'est-ce que ça vous apporte alors de participer à un tel salon européen ?
Bah, l'avantage, c'est que pour toucher des structures en Lituanie ou... C'est pas forcément des choses qu'on toucherait facilement, quoi.
Est-ce que vous travaillez souvent au niveau européen ou...
Non, jamais. En fait, les salons, souvent, c'est franco-français. Parce que là, ils veulent monter aussi un circuit de résidence avec les autres pays et tout. Donc ça, c'est vachement bien, quoi. Pouvoir faire des résidences d'artistes en Italie, à Barcelone.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un marché européen qui se développe, un peu comme un marché aux États-Unis ou... Un marché asiatique ou est-ce que ça risque de rester assez national ?
Non, moi je pense que de toute façon le marché il est déjà, même plus qu'européen, c'est déjà le marché mondial de l'art depuis assez longtemps. Et c'est clair qu'il se fait pas à Paris, il se fait à Berlin ou à Londres. Et quand tu vas à Berlin, t'as des expositions partout, des artistes partout parce que c'est pas cher. Et les collectionneurs américains ou asiatiques, ils viennent les voir déjà là ou... Donc après, il y a le relais des galeries, il faut avoir le relais des galeries, mais le marché mondial de l'art, ça fait quelques temps qu'il existe déjà.
Vous avez pu voir les œuvres des autres artistes des autres pays. Alors est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence entre les pays, entre les artistes ? Parce que j'ai posé cette question un peu tout au long de la journée, il y en a qui trouvent qu'il y a une uniformité, et d'autres qui voient des différences entre chaque pays, alors...
Non mais c'est sûr que c'est toujours un peu le piège, le truc genre oui t'es du sud, t'as une sensibilité comme ci comme ça, t'es norvégien donc forcément ça va être froid et tout, et en fait c'est un peu des clichés, mais c'est vrai que au-delà de ça, il y a quand même des cultures artistiques dans chaque pays qui sont un peu différentes. En France on a par exemple une tradition un peu conceptuelle, ça se voit dans les jeunes artistes quoi, ça, c'est un truc qui imprègne la culture des jeunes artistes, donc forcément c'est aussi amusant de voir... les petits décalages qui existent entre différentes cultures d'artistes, quoi. Ça, c'est marrant. C'est l'occasion, là, de voir ça, quoi.
Est-ce qu'il y a des thèmes communs entre les différents artistes un peu partout en Europe ou...
Ça, je sais pas. Ça, c'est un peu difficile comme question.
On nous a parlé un peu de la jeunesse dans cette expo qu'on voyait beaucoup. La jeunesse, la société, je vous rappelle les mêmes critiques.
Il y a des tendances, il y a des choses un peu transversales. Le travail sur l'enfance, le côté onirique, un peu on se réfugie dans le conte, ou alors même, pourquoi pas, un art un peu plus politique, le critique de la guerre, la mondialisation, tout ça c'est un truc qui est universel maintenant. Tout le monde a ces données-là dans la tête et tout le monde peut travailler et réfléchir à partir de ces données-là, quoi. Donc ça je pense que c'est un peu transversal, quoi.
Bah, merci beaucoup.
Merci moi.
On continue avec un groupe qui nous vient de Slovénie, c'est Magnifico, avec Jedina Nevarna.
Thank you.
Mazarek. Europe & Roll, toute l'actualité des jeunes européens sur Fadjet. Toujours dans le domaine artistique, un autre événement à dimension européenne a lieu en ce moment. Un grand concours artistique transeuropéen. Explication avec Maxime.
Depuis le 28 août 2007, une exposition un peu spéciale sillonne les grandes villes européennes. On y trouve des photos, des images, des vidéos ou encore des sons. La particularité ? Les auteurs de ces œuvres sont des internautes ayant participé à l'initiative European Vibes. European Vibes, c'est avant tout une idée force. Chaque citoyen européen a sa propre vision de l'Europe, sa propre conception, sa propre vibe. L'idée est donc de créer une plateforme internet qui permette à des internautes artistes en herbe de venir partager leur idée de l'Europe. Au final, des réalisations originales entre images et sons. Mais European Vibes, c'est aussi une exposition itinérante sur les routes européennes depuis fin août. Ainsi, les œuvres déposées sur le site avant le 20 juillet 2007 pouvaient être choisies par un jury composé notamment de la vice-présidente de la Commission européenne pour participer à cette exposition. À noter, le premier prix a été remporté par une image représentant un œil dont l'iris reflète le drapeau européen. Les autres œuvres choisies seront déclinées en carte postale ou en mini-DVD. Le tour fait en ce moment escale à Bratislava, en Slovaquie, avant de repartir vers Athènes, Ankara, Bordeaux, Madrid ou Helsinki. Une étape à Alexandrie, en Égypte, est même prévue. Le projet European Vibes ne s'arrête cependant pas là. La plateforme internet reste ouverte et chacun peut y télécharger des images ou vidéos qui représentent sa vision personnelle de l'Europe. Pour ce faire, rien de plus simple, rendez-vous sur european-vibes.eu. Don't forget to share your vibe.
C'est la fin de cette émission Europe & Roll dédiée au Salon Jeune Création Européenne. Nous remercions tous nos intervenants et l'agence Communicart de Paris de nous avoir permis de la réaliser. Retrouvez la Biennale d'art contemporain jusqu'au 12 octobre au Théâtre de Montrouge, puis ensuite dans toute l'Europe. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission d'Europe & Roll. Bonne semaine à tous !